en plus 82, puis ça commence à s'orienter, pour ça se sort le port.
C'était au départ, là, comme des sculpteurs dans le temps, donc moi j'ai ma formation de sculpteur, je l'ai plutôt acquis ici, non pas en Europe, à l'école. Finalement, j'ai jamais fait un cours de sculpture, j'ai fait des cours de dessin, des cours de peinture à l'école de Beaux-Arts et aussi à l'académie en Allemagne. Mais en arrivant ici, des sculpteurs du milieu de la sculpture, j'ai été Vaillancourt, Rousseau, Trudeau, Fortier, Hivert, etc. Et donc, je trouve dans ce milieu-là, moi j'étais novice, si tu veux, dans la sculpture autodidacte. Et je me suis trouvé à travailler au départ avec des matériaux que je pouvais trouver, comme les cuivres ou des affaires comme ça, tout simplement. Et c'était tout à fait formel et intuitif. Donc la première grosse aventure pour moi qui est arrivée, c'était le symposium à Alma, où j'ai pu réaliser une immense pièce en acier. Et finalement, de trouver une sorte de confiance en moi, plutôt qu'exprimer quelque chose de fantastique. Pour moi, c'était fantastique, c'est de l'expérience de le faire, de voir comment se développer dans l'espace, et aussi le physique de l'affaire. C'est un peu comme tout le monde dans le temps, des gens, surtout à Vaillancourt et compagnie, ils parlaient en tonnage. Et moi, je voyais, bon, au symposium, t'es invité, tu peux quand même exprimer, tu peux quand même affirmer à un moment donné. Donc, tu vas essayer de faire d'une sorte que ça passe pas inaperçu. Et en même temps, c'est une immense expérience pour moi parce que c'est d'abord la plus grande pièce que j'ai faite. C'était un métal que j'avais jamais travaillé comme tel. C'était aussi de voir l'échelle de l'affaire à rapport à une échelle beaucoup moindre qu'on peut normalement trouver dans les maisons. Alors là, tu es confronté avec l'échelle extérieure. Et aussi le contact avec les autres sculpteurs là-bas. Donc ça continuait comme ça. J'avais connu Hivert et lui finalement, parce que lui avait un atelier et moi je n'avais pas d'atelier, j'aboutis là pendant un bout de temps. Donc il y avait aussi, il y a Huet qui fréquentait, il y avait l'association des sculpteurs. Donc pour moi c'était constamment nouveau j'étais disponible, très disponible à comprendre et à apprendre et à consommer, si tu veux, et digérer et remettre.
Et finalement, j'ai ramassé des sculpteurs en arrivant ici.
Au début, là, j'ai allé à l'école de Beaux-Arts. Donc, les premiers contacts que j'ai eus, c'était Gaboriau, La Palme, Tex, Le Corps, Vaillancourt. J'ai essayé de rentrer dans l'association des sculpteurs. Pour moi, c'était des dieux qui étaient là, donc ils ne m'acceptaient pas. Tu sais. Moi, j'étais en dehors, j'ai dit, mais ça doit être des grands sculpteurs. Donc, il était un peu, pour moi, il était un peu une idole, si tu veux, tu sais, je ne parlais pas tout à fait la langue. Eux autres étaient déjà établis, parce qu'ils avaient déjà fait l'école de Beaux-Arts. Quand moi, je rentrais à l'école, eux autres étaient déjà sortis. Il y avait Vaillancourt avec son histoire sur l'avenue du Parc. C'était pour moi, c'était toujours, oui, je vais rester proche parce que en ce moment-là, si je reste proche, je vais les connaître, je vais apprendre vite, là. Et il y avait le symposium sur la montagne aussi, qui était en 63.
65. 3. 65,
là, moi, 66. Ouais. Je pense que c'était plus tôt. Mais là, j'avais le contact avec Vaillancourt. Que j'avais aperçu autrement, mais là je l'avais connu un peu plus. J'avais vu, là, c'est là que j'ai rencontré dans le fond Evan, parce que lui travaillait pour aussi. Moi je n'avais pas tellement de temps de traîner là comme les autres, parce que je fallait gagner ma vie aussi. Donc c'était une question de gagner la vie, de vouloir faire quelque chose et d'être traîné par la vie un peu, là. D'apprendre la langue et d'apprendre la façon de vivre aussi, parce que c'était quand même le choix, mon choix de venir ici. C'était mm-hmm. pas par hasard, je suis venu ici.
Il était venu ici en 59?
Non, en 57. Et je savais qu'il y avait une école de beaux-arts en arrivant, donc je voulais aller là. Là, on revient un peu en arrière, mais c'est quand même, c'est peut-être important. Quand Rivard aussi émigra, donc j'étais un peu proche avec lui parce qu'il y avait,
ouais.
Ben oui, il y avait ça. Et lui, il était dans le fond généreux, malin, dynamique, affreusement vendeur, poussé, je sais pas, il y avait plein de qualités et défauts. Mais il y avait la qualité qu'il m'avait prêté son atelier. Mais en même temps, par la suite, j'ai su que lui aimait ça, la compagnie. Il aimait ça d'être quelqu'un proche, de discuter avec, et aussi de... Parce que lui-même, dans le temps, il était en train d'apprendre que moi, je ne savais pas. Finalement, tout le monde était en train d'apprendre. Ça, tu t'aperçois par la suite. C'est pas juste toi. Même ceux qui étaient d'une sorte d'adoration devant, eux autres aussi sont en train d'apprendre, peut-être à une autre échelle, mais ils sont aussi bons. Alors pour moi, c'était, j'ai dit, mais là, il y a Évard, j'aime bien son affaire, j'aimais bien Trudeau dans le temps, et j'ai Vaillancourt, je trouvais dynamique quand il faisait son affaire pour Chicoutimi, Monument des morts, je trouvais ça fantastique, parce qu'il y avait aussi une espèce de dramatisation avec ça, parce que il faisait un assemblage dynamique en acier, en plus, pour la journée des morts, pour commémorative, il y avait la fumée qui est insérée là, donc le symbolisme, la destruction qui donc c'était important, c'est quand même dans le temps, moi je trouvais ça super. Rossil, il venait de temps en temps, revenait à Montréal. Et aussitôt Rossil arrivé, c'est Vaillancourt qui perdait la position de pape. et Rossil prenait dessus et Vaillancourt venait une sorte de soupape parce qu'il était d'abord la plus jeune. Et, il y avait aussi un respect pour Rossil, il venait agressif parfois parce que justement parce qu'il savait que Rossil avait un certain pouvoir, pas comme sculpteur, mais comme bonhomme. C'était quelqu'un qui a fait ses marques ici profondes. Maintenant, après ça, j'avais la reconnaissance des Fournel, toute l'affaire, l'association. Tout le monde travaillait un peu. Je me rappelle à l'école, on n'a jamais eu, là j'enseigne maintenant, je sais comment ça se passe, on n'a jamais eu un enseignement autre que technique. Je me rappelle pas un mot du tout. On s'est fait dire que la problématique ou même c'était toujours instinctif, il n'y avait jamais d'autre chose. Donc, tout ce qu'il fallait apprendre, c'est d'abord la matière, faire sentir la matière. D'accord, c'est bien d'accord, mais il fallait aller plus loin. Moi, peut-être, qu'est-ce qui était heureux pour moi, que j'aimais ça prendre des photos. Et quand je faisais des photos, je voyais que ma sculpture avait changé. Donc il y avait, surtout si tu prends des papiers high contrast, il y avait des papiers où il y avait la lumière et des ombrages, et ça se dessinait comme un tableau, ce papier. Donc la photo avait la qualité d'aplatir des volumes, et ça venait tout là. C'est pour ça qu'il arrivait tout d'un coup que moi je voyais des peintres comme Soulages, Klein, je regardais mes sculptures en photo, et ça faisait des pareils tableaux. Et là, je fais des tableaux. Je dis, mais quand même, ça est très pareil comme mes... Je vais essayer ça. J'ai fait de la gravure avec du Mouchel, donc j'en ai plusieurs gravures qui ont la même allure, mais à plat. C'est des aplats sculptures, si tu veux. Et après ça, je m'aperçus qu'il y avait la lumière et les ombrages. Et aussitôt que le soleil tombait, ben, il n'y avait plus de moyen de rien. Aussi que moi je trouvais ça très, dans le fond, très rigide comme approche. C'était sec, c'était, il n'y avait pas de lyrisme dans l'affaire. Il y en avait un plein, aujourd'hui je me constate, mais pour moi il n'y en avait pas. Donc je suis un peu plus mou dans l'affaire parfois, comme faisait des coulages. Ça venait aussi, il y avait un cours qui faisait des coulages avec du fond, j'ai essayé ça. Et comme le mural que j'ai fait en 1976 à la Place des Arts, donc il y a des formes molles, des formes rigides, il y a une sorte d'histoire dans l'affaire. C'était pas juste formel, mais il y avait une histoire dans l'affaire, une description des formes à plat, des formes volume, ça c'était haut relief et des aplats, et des calmes, et c'était plutôt ça. Et par la suite, je me disais que je ne devrais pas travailler dans les formes rondes, j'aime pas tellement ça. Là, j'ai adapté la forme droite seulement avec des ronds. Donc, je travaillais avec des formes purement droites, des plaques et des ronds, peut-être. Des ronds, cols, c'était un peu un genre constructiviste. Tu prends des formes, j'avais fait des maquettes en carton, je collais ensemble. Ça devient des formes. Et je voulais, en ce moment-là, je me rappelais parce que j'avais travaillé, d'abord pendant la guerre, il y avait des identifications dans les rues, étaient faites avec des plaques phosphorescentes qui étaient nourries par le soleil le jour. Et le soir, ça s'allumait, donc tu trouvais ton chemin sans des lampadaires allumées. Et sur la scène, comme marcation pour les comédiens aller sur la scène, il y a aussi du phosphore sur la scène, que avant le spectacle est éclairé, et c'est en couleur, et pendant le spectacle, les comédiens, ils trouvent le chemin. Je dis, mais j'aime pas toujours avoir l'espèce d'artifice d'obliger d'éclairer les sculptures artificiellement dans le noirceur. S'ils pouvaient vivre de l'intérieur, ça sera fantastique. Alors, je me rappelais de cette matière-là. J'en ai acheté et fait venir dans l'Allemagne. J'ai intégré dans la matière plastique, coulée. Et j'ai inséré des parties de phosphorescent dans la matière soudée en aluminium ou en acier. Là, j'avais fait une sculpture chez Otto Bengel, en 68, justement. Ma première exposition solo, dans le fond, si tu veux, d'importance. Je voulais faire ça avec cette matière phosphore, donc j'ai éclairé ça très fort avant le vernissage commençait. Et pendant le vernissage, je fermais les lumières, et c'était supposé rester allumé. Mais c'était pas le cas. Rapidement, après 5 minutes, là, ça s'allumait plus. On était dans la totale, comment tu. Et là, il fallait, pendant le vernissage, allumer les phares, les descendre, et c'était terrible, tu sais. Et les gens disaient, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il faut s'en aller? Est-ce que l'as colle, quoi? Non, mais c'était vraiment terrible. J'ai dit, mais ça marche pas, mon affaire. Par la suite, j'ai vu qu'il y avait des moments que ça plus. Le phosphore réagissait sur la chaleur ambiante et l'humidité. Il reste allumé toute la nuit. Mais dans certaines conditions, il s'éteignait après 2 minutes. T'sais? Alors, je n'avais pas contrôlé ça du tout. Alors, ça ne marchait pas, mon appel, du tout. J'ai abandonné ça rapidement, mais c'était une expérience. Mais j'avais fait quand même... j'avais fait un contact avec Giroux, à Québec. Il était dans sa cave en bas, à Québec.
Oui, dans la place royale.
Oui, dans la caverne. J'avais demandé si ça le tentait de faire une exposition avec moi. Et là, j'avais aussi encore ces morceaux de phosphore, mais beaucoup moins. Il y en avait quelques morceaux qui étaient isolés. Et je voulais surtout faire, parce que j'avais des formes rondes en plastique, je voulais faire une espèce d'environnement avec des bonhommes qui comme sur les pouces, qui lèvent.
OK.
Des pivots, parce que j'étais à Chefferville pour organiser un symposium là-bas, il a emporté des palettes d'acier. Je l'ai mis dans le fond, avec plastique dans une boule en plastique et ça faisait ces mouvements. Et j'ai dit, si je remplis la galerie de ça, et des spectateurs qui sont tous en contact, ils rentrent dans la galerie, ils vont se toucher par entremise des autres sphères et ça va provoquer un espèce d'événement. Mais en commandant des sphères chez Eddie Plastique, je l'avais plein chez moi dans l'atelier. J'ai découvert le phénomène des réflexions par soucoupe creuse des topologues. J'ai découvert qu'il y a une drôle d'image qui était virtuelle, c'est la fenêtre qui était dans ça. Je trouvais ça bizarre parce qu'elle se présentait devant et n'était pas là. Et finalement, j'ai changé l'exposition chez Giroux pour mettre la première exposition des topologues là-bas. Il était assez primitif encore parce que c'était vraiment le début de ça. Mais ça fonctionnait, ça marchait. Ils avaient commandé des plus gros, plus plats. Finalement, ça fonctionnait d'une façon que je voulais plus ou moins. Là, j'étais content, il y a la lumière artificielle, mais la lumière artificielle qui était ajoutée après la sculpture, donc elle vivait quand même la sculpture sans que je... Parce que la sculpture n'était pas les sphères, la sculpture était l'image virtuelle. Donc, comme je percevais ça comme sculpture, je n'éclairais pas la sculpture, elle s'éclairait elle-même. Donc, c'était bien mieux que mon phosphore. En plus, c'était un mouvement, doucement, là, et c'était méditatif, c'était contemplatif, c'était... J'aimais beaucoup, alors ça pour moi c'est une grande découverte. Et Barras était là, et lui était dans le temps le directeur intérim au Musée d'art contemporain, il flippait là-dessus, il dit il faut faire un show. Et moi je dis allez là, donc attends-tu faire un show avec moi ensemble au musée, Barras m'a demandé, il dit oui. Et là est venue cette exposition des triangles et des ronds, ça c'était le. La bague est verte, il dit, moi je fais des triangles, toi tu fais des ronds. Je dis, ça ne va rien avoir avec moi, des ronds. Moi, ma problématique était le phénomène de mouvement avec la lumière. Un peu comme un hologramme naturel, plus ou moins. Mm-hmm. Et mon esprit, peut-être allemand, si tu veux, était raisonné, analysé ce phénomène-là. Comme je ne suis pas mathématicien, mais j'ai un peu de cette tendance-là, parce que mon père était ingénieur de formation. Donc on avait travaillé toujours avec des problèmes mathématiques, champs des collines. Moi, ça me fascinait l'affaire, et je voulais raisonner des formes dans l'espace avant de faire des dômes. Parce qu'à un moment donné, j'aurais pu aller appeler qui et dire, bon, moi, trois dômes, je installe ça là, il n'y aura plus rien à faire. Je suis sculpteur, je suis vendeur des bébés. Et là, il y avait une période qui était un peu dure pour moi, là, de s'en sortir de ça d'une façon... donc, j'ai dessiné ça, je repeignais ça. Je pense que tu l'avais aperçu à un moment donné. Tu dis, tu fais des sous-produits de ton affaire. Et dans le fond, tu avais raison. Moi, j'ai été dans une espèce d'impasse. J'ai dit, je ne veux pas rester dans ça parce qu'il n'y a plus rien. Ça ne me porte à rien, ça. Il faut que j'aille plus loin, mais... Si tu veux aller plus loin, tu peux aller juste sauter une affaire. Pour moi, il fallait raisonner l'affaire. Là, je dis, si je présente ça d'une façon que j'ai un dôme en avant, j'ai une carré qui se reflète, ou une cube qui vient d'une... peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Là, j'en fais des dessins, j'en ai encore des dessins de ça. De raisonner le mouvement dans la coupole. Ça, quand même, moi, je n'étais pas mathématicien, et je trouvais ça super difficile. Je l'ai transféré des grids sur les ronds et en couleur et tout ça, je dis, ça n'a pas de bon sens. Finalement, j'ai dit, mais si je ne suis pas capable de raisonner avec la courbe, je vais essayer de raisonner le mouvement, c'était le mouvement, raisonner le mouvement avec la droite. Et là, j'ai tiré des lignes perspectivées qui se rencontraient et pour décortiquer un mouvement sur... Il fallait avoir une raison où ça va, cette forme-là, elle va quelque part. Donc elle se promène, elle vient d'être là, elle ne s'en va pas là. Donc c'est pour ça que c'était des deux points de fuite qui se rencontrent. une forme qui s'en vient par là et s'en va par là. Elle sera inverse finalement, elle va par là. Et là, j'ai fait beaucoup de dessins et je pense que c'est l'autre exposition chez Corbeil que j'ai faite sur l'eau et à la galerie Joliette en 71. C'était plus tard. En 75 ou 16.
75, 16,
oui. De faire d'une sorte de décortiquer le mouvement. C'était ça. Maintenant, des sculptures qui étaient là, c'était pas vraiment des sculptures, c'était des dessins. Parce que si j'avais un dessin comme une image, comme une animation par image d'un mouvement, je me disais, si je mets ça comme le dessin plus épais, ça va donner un volume, ça va pas faire comme des sculptures légères, qui fait des sculptures plats, c'est finalement des dessins, mais c'est des dessins épais. Je me disais, c'est ça, tu tournes vers le côté, il n'y a plus rien, il y a une ligne. Mais je me disais, si maintenant c'est des dessins épais, je l'ai sorti aussi par là, donc il y a peut-être volume. Donc là, je faisais des pyramides. Donc je me dis, mais là, des formes aplaties comme ça, dans l'espace, agrandies 8 fois et raisonnées mathématiquement, là, paf, tu arrives avec comme des pyramides en mouvement qui se promènent d'un point de vue à l'autre. Et là, j'ai fait des séries de pyramides comme ça, qui relevaient directement, dans le fond, les problèmes que je pouvais pas résoudre dans les topologues. Mm-hmm. C'est pas un saut, c'est une discontinuation par incompréhension. Je pouvais pas continuer dans ce sens-là. Donc là, j'étais pogné avec des sculptures plats. oui, c'est faire, là, je peux rien faire. Là. Donc, j'ai fait des pyramides. Et là, comme c'était toujours, c'était pas des bases, mais c'était le fond des deux perspectives qui se rencontrent, donc la base se promenait comme une espèce de pyramide très aplatie,
écrasée.
Je me disais, si maintenant, au lieu d'avoir ça, je tire un horizon à la pointe plus haut, droite, donc il y aura les deux côtés, il va y avoir des parties souterraines qui vont en bas de la ligne d'horizon. Et là, je pourrais construire tubulaire, des formes tubulaires comme un contour d'une pyramide ouvert, comme déplié, et des parties qui sont en souterrain, là, moi, je les fais remonter en haut, et je les peins d'une autre couleur. Et là, j'ai fait au Forum 76, j'ai fait des tubulaires qui sont dépliés, des formes dépliées en deux couleurs. Donc, la pyramide était en bleu, et le rabattement qui revenait vers le haut était en rouge. Donc c'était une forme qui se promène comme ça, mais avec des flaps qui devenaient plus gros parce que ça rentrait en terre plus. Suite à ça, j'ai proposé au Musée d'art contemporain une exposition, comme un catalogue long en 77, où il y avait une seule sculpture qui était des tubulaires en aluminium et des néons. Et je l'avais faite au lieu de faire une à côté de l'autre, je l'ai fait une en arrière de l'autre. Donc la question de temps était changée, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Et aussi je l'avais dessiné trop gros pour rentrer dans la salle, donc il y avait des ravadements. Donc des formes pyramidales étaient en aluminium et les ravadements au plafond et au plancher étaient en néon replié. C'est ça. Donc pour moi c'était... Pour aboutir là, à une finalité pour cette problématique, là je ne la promenais plus comme ça, je la promenais comme ça. Je dis, mais si je la promène comme ça, je vais la promener physiquement, pour voir ce qui se passe. Je dis, là c'est tout hypothétiquement, c'est pas vraiment la sculpture, c'est en partie des dessins, c'est finalement le dessin dans l'espace que je fais, c'est pas la sculpture du tout. Et je me dis, ben là, je vais faire promener mes formes physiquement dans l'espace. Et là, j'ai été à Ottawa, j'ai vu le centre de recherche nationale. J'ai dit, moi, j'ai deux camions avec un tour dessus. J'ai une plaque en forme de polygone. J'ai une tour construit dans le milieu en bas du canal, là, où il y a boulevard. Et on a deux conducteurs. On veut conduire cette plaque-là à 90 000 à l'heure dans l'obstacle. Et on voudra bien barrer la route. Il dit, c'est dangereux, pas pour les autres, pour vous. Si on ne sait pas dans quel sens la plaque va partir, elle peut sectionner à cette vitesse-là, sectionner le camion en deux. On ne permet pas. Puis, on va vous trouver une solution de rechange. On peut vous organiser, on fait des écrasements au centre, pour une vitesse, on peut faire ça, ou il y a toujours moyen d'avoir une grue très haute. Au lieu d'avoir votre plaque qui est en mouvement, on va faire l'obstacle en mouvement qui va vers la plaque. Donc on va aller avec la grue, faire tomber à une vitesse qu'on peut vous calculer, qui va faire un impact sur votre plaque, et ça va faire pareil du melon. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je veux. Là, on fait des écrasements théoriques avec ordinateur, ça fait pareil, ça ne m'intéresse pas. Et je le profite, j'aurais fait plein de dessins là-dessus, je le profite finalement. Comment je vais faire? J'aurais fait des dessins comme si une plaque arrivait, parce que finalement, si tu fais des dessins en mouvement qui viennent d'une place à un autre, à un moment donné, soit ils sont à l'infini, comme des photos que j'avais pris des photos, des progressions avec des photos téléphoniques et avec des photos. C'est des trucs qui finissent pas. Tu sais? L'électricité, c'est lié ici à Nouvelle-Orléans. Ça se voit partout. C'est des progressions, des photos et des mouvements, des impacts, il y en a partout. Alors, je dis, mais là, si c'est un moment donné, ça arrive à une fin et ça frappe un obstacle, je vais le raisonner. Là, j'essaie de dessiner. Là, j'ai fait des dessins. Là, la plaque qui frappe un arbre. Deux plaques qui frappent un arbre. Une plaque qui frappe un coin. Mais c'était pas un impact physique et un écrasement dans le coin. C'était plutôt de frapper le coin. Il y a un rabattement tant qu'il y avait c'était relié. À mes pyramides, que je faisais un rabattement naturel. Je dis, ben, ça n'a pas de bon sens non plus. Et j'ai découpé une diapositive, je dis, mets ça dans le projecteur, je vais shooter dans le coin, il va aboutir à quelque part. Il était là. Je regarde ici, bon, il est là, c'est vrai. Et là, je me suis promené, et là, j'ai découvert que la forme, au lieu de rester sa forme, elle épousait une autre forme. Elle épousait la forme d'ici, elle restait intacte, la façon que je l'ai sur le diapositive. Et aussitôt où je me déplaçais, elle décrivait un espace que je ne connaissais pas. Donc, en soulignant le coin, j'avais une description d'une forme qui existe, mais je ne vois pas, à moins que je le décris. Mm-hmm. Hein? Si je fais une description... Alors, je découvre d'autres formes trois-dimensionnelles à l'intérieur d'une forme trois-dimensionnelle déjà existante. C'est intéressant. C'est pas tout à fait la même affaire, mais c'est intéressant. Et là, je me dis, mais je ne deal pas du tout avec 3D. Dans le fond, je deal avec des surfaces seulement. Parce que c'est pas la profondeur. Et là, je voulais avoir une base de recherche. Et j'appelais ça... la recherche sur des surfaces épidermiques d'un volume. Parce que tout ce que j'ai fait, je touche les surfaces, je rentre les surfaces, je ne vais pas en profondeur du tout. Je fais juste voir où on arrête, c'est toucher alentour. Donc le volume, il n'y a pas de profondeur dans l'affaire, c'est juste une multiplication de surfaces finalement, qui sont opposées de différents angles et vecteurs, un vers l'autre, mais l'espace, on le décrit, on le perçoit, mais finalement, les vrais volumes, on ne garde pas à travers. En ce moment-là, il faut avoir une matière translucide. Là, tu sens le volume. On ne peut pas ressentir un volume. C'est toujours à plat. Alors là, j'ai fait un peu. Le premier que j'ai fait dans mon atelier, j'ai shooté le truc et là, je l'ai peint. Dans le coin. Et je suis parti, j'ai regardé à la place du projecteur que ça fait. Ça fait moi, ben, c'est parfait. Je l'ai reconstitué. Donc. Et là, celle-là, aussi, j'ai délimité une zone d'un lieu existant. Dans les autres dessins, je l'ai redessiné les zones touchées et la pièce qui est là, que c'est pas une sculpture, c'est une pièce vérification, si tu veux. Tu crois pas ça, voilà. C'est ça, c'est pas une sculpture en soi, c'est juste une pièce qui est là, vérifiable. Et j'en avais fait comme ça. Donc, comme je n'ai pas rempli des surfaces, mais je travaille avec la ligne, j'ai oublié ça pour le moment. Et que, en ce moment, tout de suite après ça, j'ai eu l'atelier à Paris en 80. Mm-hmm. Et là, j'avais des restrictions d'espace énormes à cause de l'atelier. Et c'était presque impossible de travailler des objets comme ça parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, je me dis, malheureusement, à Paris, je fais des dessins. Et là, je fais beaucoup de dessins. Et ces dessins-là m'ont amené à insérer la problématique dans un espace beaucoup plus grand. Puisque j'étais à l'intérieur, de toute façon, j'ai fait des études sur des petits objets et tu peux les épuiser. Hein. J'en ai fait des dessins sur une forme qui sert pour couler les bases de lampadaires, qui est en 6 morceaux, et tu changes un peu la structure de support. Avec la même projection, tu peux en faire des milliers de formes différentes avec la même forme, c'est inépuisable. Hein. Mm-hmm. Là, j'allais, je vais aller dehors, et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit, on a une exposition, et je dis, Québécois, ben, je vais faire un truc chez nous, exposer une sculpture. Je dis, j'en fais pas de sculpture. si vous voulez, je peux vous faire un truc dehors. Et ça a pris finalement 3-4 mois pour, avec toutes les difficultés que tu peux avoir en France pour convaincre quelqu'un. Finalement, j'ai réussi à me faire payer des matériaux pour voir les terrains, pour me faire payer mon manger. Et c'était pas pour être payé, parce que j'étais pas payé. Je voulais faire une expérience extérieure, physique. Je voulais le faire, mais sans payer quand même. Alors donc, à Créteil, j'ai réalisé le truc qui était, ce sont des petits pieds grands, là, avec des obstacles que j'ai fait, plus qui inclut la maison, plus le gazon, et plus, pendant, c'est un espèce d'aménagement, environnement, qui avait la même problématique dans le fond. J'ai fait toute ma quête et affaire, et là, je suis venu à la ligne qui est là, parce que je pourrais juste faire les contours avec la ligne. Et cela est devenu l'histoire des néons. C'était pas pour la lumière. Là, c'était plus pour la lumière du tout. C'était juste pour souligner une ligne. Non. C'était juste pour souligner. C'était comme une ligne, comme dessinée dans l'espace. Entourer un espace et voir où il se promène dans la profondeur. Je trouve ça fascinant de voir que je suis ici. Je ne perçois pas du tout la profondeur du champ que je regarde. Donc, nos yeux ne sont pas efficaces du tout. Pour percevoir en profondeur. Si tu regardes en haut, tu vois le ciel, là, c'est le sable après. C'est uni, il y a une plaine. C'est une surface, il n'y a pas de volume. Parce qu'on ne peut pas percevoir ce volume-là qui existe. Donc, tout ce que je faisais, finalement, je ramène ça à une échelle beaucoup plus proche, c'est le même phénomène. Évidemment, tu as des problématiques en ce moment-là qui arrivent. C'est si tu peignes une surface, des lisses, des rugueux, des inclinaisons d'angle différentes, donc de la lumière qui frappe autrement. Donc tu ne peux pas contrôler vraiment la couleur qui est sur toutes les surfaces et niveaux, la même intensité, la même couleur, ça n'arrive pas. Donc ça va être à peu près la même affaire, donc tu vas, premier coup de vue, là, tu vas être la même couleur, mais si tu le dessines vraiment, on regarde vraiment proche, ça va être quand même des intensités différentes à cause de...
Si c'était la même couleur, ça serait plat.
Ça sera plat, oui. Mm. Maintenant, ça donne un aperçu de plat, si tu gardes plus bien. Ou aussi, peut-être, dans certaines conditions lumineuses, ça donne le plat. Dans les photos, souvent, ça me donne vraiment le plat. Il y a des gens qui m'ont demandé, après avoir vu le catalogue, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as mis une vitre devant ou quelque chose, un papier transparent. Je dis, non, non, c'est ça. Et moi, je trouvais ça fascinant. J'étais invité à plusieurs reprises à me confier d'autres. Et donc, j'ai fait à Paris plus de sculptures que j'en ai fait ici. Et je retournais en Belgique et en fait avec des néons à l'extérieur, par-dessus des arbres, dans la nature, à Centre-Américain, à l'intérieur d'un édifice de 2 étages. Je trouve ça fascinant, je trouve ça encore fascinant. Maintenant, plus je fais ça, plus j'ai la misère, comme je disais, de dire, mais les supports pour mes affaires, de construire une espèce de situation, construction, ça n'a plus de sens. Je ne suis plus dans le truc de constructiviste comme au début, là, mm-hmm. où je fais des formes arbitraires et je shoot une forme là-dessus. J'aurais pu, mais j'aime beaucoup mieux des formes naturelles ou des formes qui existent, qui sont référentielles, où on peut vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, un des rêves par la suite que j'aurais eu d'aller sur le Mont-Royal en haut, parce qu'il y a des points de vue là, mm-hmm. et il y a une carré jaune qui se promène dans la rue, dans la ville là, qui est toute jaune, tout un quartier de la ville est jaune, là, rouge là. Et quand tu vas dans la rue, tu t'en aperçois pas, parce que c'est tellement, ça s'étend sur bon, une vingtaine de rues ou blocs. Tu
vas faire des projections sur
tout un quartier de la ville, oui. Un projet que je voulais financer moi-même, que malheureusement n'a pas abouti, c'était l'autostade, où j'ai acheté l'entrée principale. Quand ça a été déménagé,
j'ai
l'autostade, oui, c'est ça. Route, et j'avais loué le territoire du fédéral et tout était correct. Et, j'avais la permission de peindre l'autoroute en dessous. Et c'est une sorte d'entrée vers le musée. Moi, je m'amuse. En plus, je ne voulais pas reconstituer cette affaire-là, justement pas, parce que il y a des milliers de personnes qui ont passé là. Tu avais un vécu. Et les lampadaires étaient encore là-dessus, c'était une espèce d'escalier to nowhere qui était maintenant coupé, c'était un chemin vers quelque chose qui est maintenant utopique, qui n'est plus rien. C'était sentimental en même temps, je suppose. Mm-hmm. Alors c'est un peu ça, je suis rendu là. Et là, je suis encore en train de trouver, avec les pièces référentielles là, pour l'exposition à Optica, c'est rendu encore ça va vers une projection gigantesque que je m'en fais. Parce que ça entraîne pas juste de le faire, il faut le faire. C'est pas facile à faire. Mm-hmm. Parce que ça prend des géomètres ou ça prend je sais pas. C'est pas facile à faire. Je me suis aperçu de faire ces trucs-là que je fais maintenant. Je le fais à l'aide d'une caméra réflexe. Je me promène à la caméra, je me prends dans mon sujet, je place des bâtons en bois pour délimiter l'espace. Je tourne à la caméra, je vais là-bas. Pour mon affaire Optica, je vais travailler avec une caméra vidéo qui va déterminer le point de privilège. Et je vais travailler avec le moniteur dans mes bras. Pour pas l'obliger à courir comme un fou et finalement de pas arriver à... Ce sera beaucoup plus rapide, il y a beaucoup de personnes, il y a des moyens.
Là, tu as décrit, disons, ta démarche, ton évolution. Mais à ce moment-là, à partir de ton évolution, de ta démarche, pour toi, être artiste, ça a été quoi?
Moi, d'être artiste, moi, si je veux décrire d'abord qu'est-ce que c'est artiste, mm-hmm. Pour moi, c'est quelqu'un qui a la nécessité d'émettre des idées qui sont proches de lui, qui sont originales pour lui, ou tout de même, mm-hmm. Les explorer au maximum, et les dites œuvres d'art deviennent des documents qui restent, c'est tout. C'est des témoignages d'une pensée de quelqu'un, c'est tout ce que c'est. Si c'est marchandable, après, c'est un autre parlement, ça n'a rien à voir.
Mais l'artiste met sa marque dans le milieu ou dans un lieu donné à un moment donné.
Oui, mais c'est aussi, je ne sais pas si tu en rappelles, moi j'avais j'étais une des défenseurs de la continuité d'une œuvre d'art, donc j'étais en cours souvent pour défendre des pièces qui devraient rester là. On ne devrait pas les endommager, on ne devrait pas les enlever, on devrait respecter, on devrait forcer les gens à respecter ça. J'ai révisé mes flûtes là-dessus fondamentalement parce que je dis, ben, si tu proposes quelque chose, tu imposes pas rien. Tu proposes quelque chose. Et si les gens veulent bien voir, d'accord, tu veux pas voir, merde. Si tu trouves que tu as mis quelque chose là, les gens ne veulent pas voir, qu'ils l'enlèvent. D'ailleurs, les musées, la conservation des choses, à mon point de vue, ils avaient conservé certains exemples typiques d'une civilisation qui a eu lieu, qui valent la peine d'être conservés. C'est pas un amassis de on ramasse pas tout d'un artiste, mais de témoigner une sorte d'époque qui était vécue et des pensées qui étaient émises dans ce temps-là, à cet endroit-là. Je pense que c'est un peu ça pour moi. Et comme j'ai dit que les dites œuvres d'art, qu'on appelle œuvres d'art, c'est comme des résidus ou des restants de la pensée, c'est des documents ou des témoignages d'une pensée. Mais si quelqu'un veut acheter parce qu'il n'a pas d'idée lui-même ou il aime ça, c'est entouré des idées des autres, merveilleux, c'est fantastique s'il s'intéresse à ça. Si le musée veut, ou le musée a un rôle de conserver des idées originales de certains penseurs, au même titre que des écrits, au même titre que des poèmes, au même titre que la musique, je trouve que c'est formidable. C'est formidable pour les gens qui vont venir, pour leur permettre de voir ce qui s'est passé par avant, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire, nous autres, on fouille maintenant, archéologues, pour voir ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait pas de musée là. Donc, dans ce sens-là, moi, je vois mon rôle est d'abord ma curiosité de découvrir et mon engagement est de trouver. Et ça, c'est ma curiosité.
Découvrir
quoi? C'est un gros mot. Oui, on ne sait pas. Je pense qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche. Je pense qu'on est, on propose quelque chose. Et là, qui peut avoir pour nous, par exemple, les sculptures qui est au musée? Que j'ai dit, c'est mon point de vue, ma vision. Okay? J'ai eu souvent la misère à m'exprimer ou d'être compris. D'abord par le fait de ne pas parler parfaitement la langue, de aussi de rentrer dans notre culture, d'apprendre tout ça. Donc j'ai été frustré souvent le fait de ne pas pouvoir communiquer de la façon que je voulais. Mais dans cette sculpture, ça témoigne un peu ça, dans le sens que si tu te mets à la place privilège, tout devient rigoureusement compris et compréhensible par sa forme géométrique, qui est très rigoureusement géométrique et compréhensible. À tout autre point de vue qui est permis, tu peux te promener à l'entour, ça vient jusqu'au chaotique. Donc, dans le sens littéraire, l'interprétation de cette pièce-là peut être, je te comprends que je comprends pas ce qu'il dit, mais c'est normal. Tu as un autre point de vue que moi. Tu es ailleurs. Tu es peut-être en arrière, tu es peut-être à côté, en haut, tu ne sais pas, il y a des millions de places, tu peux voir le même sujet. Mais ma façon de le voir, et pour ça, je ne peux pas indiquer la place et le grossier, il dit, mais toi, tu te mets là. Ça doit découvrir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui voit la même façon que moi.
Mais ce que tu as travaillé, c'était sur l'illusion. L'illusion de la perception.
Ça aussi, mais ça aussi,
c'est venu... L'illusoire plutôt de la perception.
La perception aussi, parce que si nos yeux, comme je dis, mais dans la guerre, on avait des périscopes qui nous donnent une vision plus loin, parce qu'on fait des yeux éloignés pour voir un champ de vision plus loin. Nous autres, on est pris avec nos yeux à une distance telle, donc on n'a pas de champ de vision plus loin que X, après ça vient plat. Tu peux faire des montagnes au loin, ça vient des aplats, ça vient des découpés. Oui, de ramener aussi, ça m'a amené à découvrir pas juste la lumière, ça m'a amené à voir des ombrages, de voir l'inversé, de voir, d'observer. À un moment donné, j'avais une chambre à Ottawa, dans une en dessous d'un toit. Donc c'était une pièce qui était dans sa forme assez animée parce que c'était en dessous d'un toit. Et j'avais juste une ampoule dans le milieu. Moi, je trouve ça, tous les ombrages alentour, je découvre ça, je dis, mais c'est fantastique dans le fond. Je dis, bon, on prend une, comme j'avais rien à faire, je vais prendre une poule peinture, la même couleur que l'ombrage, je vais peindre tous les ombrages. Je vais tout peindre, sur le plancher, sur le mur, partout, sur les armoires, partout. Et là, quand j'avais fini, c'était pareil.
Comment c'était pareil?
Comme si je n'avais pas peint, parce que c'était la même couleur que l'ombrage. La lumière allumée le soir, vous ne voyez pas la différence, parce que les ombrages étaient peints de la même couleur que l'ombrage, donc tu ne vois pas. Mais le jour, l'ampoule n'était plus allumée, la lumière rentrait, et tu avais l'impression que l'ampoule était encore allumée, parce que là, tu avais deux sets d'ombrage. L'ombrage qui était le soir par l'ampoule, et l'ombrage naturel qui rentrait, qui se confondait, c'était fascinant. Moi, j'étais fasciné par ça. Et découvrir plus loin là-dessus. Moi, je vois des fois, comme j'ai fait des pièces, des formes anamorphiques qui se présentent, là, quand la lumière frappe un objet d'une certaine âme, qu'il y a un prolongement de l'ombrage qui se fait d'une façon incompréhensible si tu ne connais pas l'objet. OK, ça, c'était fait. Ça a été découvert par des gens il y a longtemps, en 1500. Ils faisaient des peintures sur un tube lumineux, miroité et tout ça. On a aussi sur les livres des illusions, tu mets un livre sur le côté et tu vois l'image et quand tu vois la face, c'est très prolongé. C'est un peu ça aussi, tu sais. Moi, je trouvais ça... c'est une espèce d'enchaînement naturel d'un événement à un autre. Ça lâche plus. C'est d'être curieux après un événement découvert. Tu redeviens curieux et tu dis, mais si tu faisais ça, qu'est-ce que c'est? C'est un enchaînement naturel et tu énonces finalement quelque chose que tu penses que tu dis, oui, mais c'est pas mal proche si tu regardes dans le ciel et tu vois le ciel est plat et finalement il est très profond. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je vois? C'est pas qu'est-ce qu'il y a là. Et si je vois ma sculpture, je dis, regardez, c'est un peu ça. Mais le spectateur peut finalement le voir comme il veut. Et en regardant, en voyant comme il veut, ils vont avoir d'autres idées, probablement, j'espère, qui vont se développer, ils vont aller plus loin et d'autres vont faire d'autres choses avec ou sans ou par inspiration d'eux, je ne sais pas. Je parlais avec Thierry Deluve sur la pièce qui est au musée et j'ai dit, ta pièce, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une des pièces que j'aime beaucoup. Je dis, pourquoi tu aimes ça? Dis-moi non, pourquoi tu aimes ça? C'est parce que tu dis que tu...
Oui, c'est l'effet ta boîte rose, qui est identifié comme étant la boîte Musée d'art contemporain. Tu marques repère là-dessus. Et c'est fascinant là, que tout ce qui est là, ça rentre dans la boîte par la suite, qui voyage. Je dis oui, mais ça c'était l'idée au départ. C'est pas ça. Il y a une autre boîte qui va emboîter cette boîte-là parce que, vois-tu, les conservateurs de nos musées, de démêler tout ça, le remettre là c'est pas possible. L'idée était... C'est une exposition itinérante, donc mon support, comme je disais, qu'il y a besoin d'une raison, donc je vais utiliser des caisses, des boîtes, parce que c'est itinérant. Donc je vais utiliser la caisse du musée. Donc ça va me donner une espèce d'impossibilité de compréhension de temps. Il est dans les déchets, mais comment ça se fait? Il est supposé être dans les déchets, l'exposition est encore en cours, il figure dans l'exposition, il est supposé être dans la cave, donc il y a toutes sortes de questionnements qui se font. Et je trouve ça intéressant, mais quand j'ai vu l'ampleur de l'affaire et la reconstitution, ça ne peut pas ça, je vais la mettre quand même et je vais fixer tout ça et ça va quand même passer. Et là, ils disent, moi, j'aime moins ça maintenant. Ils disent, oui, mais j'aime moins ça, mais il ne faut pas être fou, c'est une exposition itinérante, tu sais. Ils disent, accepteras-tu que... parce que je pourrais donner une autre interprétation, c'est la signature tout simplement.
si la pièce est identifiée par, étant est au musée, initiée par le musée, et moi je l'ai signée, mon nom est dessus. Fini là, t'acceptes ça? Je dis oui. Bon, alors donc, chaque émission d'idées peut comporter énormément d'interprétations que moi je n'ai pas de contrôle là-dessus. Et je dois laisser le livre aller pour les interprétations de chaque pièce que j'ai fait. C'est ça l'idée finalement. Moi je trouve que c'est ça qui est santé. C'est ça que j'ai contesté à un moment donné. Et c'est ça que je conteste absolument pas. Je suis content que ça se fait. Et la même chose que j'ai eu des arguments. Contrairement à avant, il y avait l'exposition de Archambault à Paris. C'est des pièces qui faisaient allusion au céleste ou aux religions, le passage des ficelles, etc., etc., qui était en bois. Et lui, dans son exposé, il disait qu'il a fait des grandes recherches pour protéger, conserver les pièces et pour long terme, 30 ans s'il faut, plus long, et des recettes comment refaire l'affaire. Moi, j'aurais admiré ça il y a un temps. Et là, j'ai demandé la question, il dit, mais comment tu vois ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux le protéger absolument comme ça? Est-ce que tu veux qu'il survive combien de temps? Dans le vrai temps, ce temps-là qu'il survit, c'est quoi? Tu l'as pensé, tu l'as dit, ça ne suffit pas. Et le temps que tu utilises l'utilisation des matériaux, tu as choisi du bois. Il a choisi du bois pour sa chaleur. Il faut qu'il accepte aussi le bois a une certaine durée de vie, c'est tout. Il dit, oh non, faut ça reste. Je dis, voyons donc. Mais il y a des gens qui font consciemment des pièces éphémères. J'en ai fait aussi dernièrement, que je n'aurais jamais fait il y a quelques temps. Oh, c'est complètement fou, c'est complètement stupide de faire des pièces éphémères. À quoi ça sert? Moi, je prétends aujourd'hui là, que je fais une pièce éphémère. Je l'ai fait pour le temps que je l'ai fait, pour moi et pour ceux qui le voient. Je peux documenter ça si je veux. Autrement, je ferai peut-être même la pollution si j'en fais trop. Mais elle doit mourir à un moment donné. Et je trouve que c'est une qualité d'accepter qu'une pièce meure. C'est pas... je pense que c'est une immaturité de vouloir le préserver pour la postérité ou pour toujours, toutes ces pièces. C'est pour ça. C'est la foutaise. Moi, je trouve que c'est même un geste généreux et mature d'accepter sa pièce meurt, en certain temps.
Non, mais sans ça, c'est absolument pas, disons, formaliste ou quelque chose comme ça. On arrête là-dessus. C'est ça que je voulais dire, c'est que pendant un certain temps, tu as justement été impliqué dans cette association de milieu. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu étais impliqué justement pour sauver les musées, donner des moyens ou quoi ou quoi?
Oui.
Parce que là, présentement, tu dis, bon, une pièce est infirmière, qui était un peu contraire disons, aux actions, de toutes les actions que j'avais faites. Plus de musées, plus de ci, plus de ça.
Oui.
Là, tu sembles revenir sur une proposition contraire.
Je pense que c'est une c'est un peu immature si on dit qu'il faut protéger tout ça. On ne peut pas tout protéger, toutes les idées, ça c'est pas vrai ça. En plus, chaque chose devait faire son temps. Il y a des choses qui sont juste faites pour un temps. On peut pas tout prolonger artificiellement. On peut pas non plus insérer contre la volonté des gens des choses d'un milieu. C'est très malhabile. On a vu ça quand créer un milieu artificiellement, ça se fait pas, ça vient de l'intérieur. Moi, j'ai compris il faut d'abord peut-être être d'ici un certain temps pour comprendre certaines affaires, qu'on ne comprend pas tout de suite. Ce pays-là, pour moi...
Ce pays-là, c'est...
Québec,
okay.
Ou Canada. Est un pays qui était vu, perçu d'extérieur et aussi de l'intérieur pour une place qui était pour être exploitée. Pas exploitée culturellement, je connais très peu de monde qui sont venus ici pour la culture. Si ce n'est pas pour les... autochtones ou pour les Inuits. Pour la culture québécoise, pour la culture canadienne comme telle, là, qui a 300 ans à peine, je pense pas qu'il y a bien du monde qui sont venus ici pour ça. Ils sont venus ici pour faire une pièce. Donc c'était un pays, aussi dur ça peut sonner, là, c'était un pays qui était destiné à être exploité à mort, sucé à sec de ses ressources et tout. Maintenant, dans un milieu qui était perçu avec cet esprit-là, d'avoir une culture, tu ne peux pas insérer une culture. Chacun venait avec sa culture dans ce pays-là. Les Grecs, tout le monde vient avec sa culture. Il amène un peu de sa culture, il accroche ça sur le mur, il s'entoure avec. Certains qui sont dans la difficulté s'en défaire de la culture, ils sont des ghettos. Et les autres, mais ils s'insèrent dans la population. Et finalement, les tout devient une espèce de mélange de... On va faire une pièce, on va s'en aller chez nous, on va peut-être rester, on gèle, on n'aime pas vraiment ça, mais qu'est-ce qu'on a comme choix? Et ça favorise pas tellement une culture. Et je pense, en ce moment-là, la prise de conscience de la culture au Québec ou au Canada, je ne sais pas, ça vient absolument de l'intérieur d'un besoin. Tu ne peux pas l'insérer. Il dit, mais là, on a la culture. C'est pas vrai, ça. Ça vient d'un besoin intérieur qui, finalement, se forme. Et ce besoin-là est exprimé. Et là, il y a une oreille, après ça, qui écoute. Il y a un feedback qui vient. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un petit mini-milieu qui se forme et qui peut prendre l'expansion. Mais ça, c'est tout à fait récent. Quand moi, j'arrivais ici au Canada, je disais, ah, oh, mais c'est formidable ici, c'est tout neuf, des bungalows neufs partout, tout est formidable. Dans 15 ans, des bungalows sont payés, des gens vont s'intéresser en or. Bingo, c'est pas vrai. C'est vrai pour l'Allemagne, peut-être, où tout était bombardé. La culture était à l'intérieur, était déjà ancrée dans le peuple. C'était pas un peuple déplacé, c'était un peuple qui était privé de la culture. Et après, c'était rasé. Après, on s'est remis, évidemment, économiquement ensemble. On a ramassé des petits, on dit oui, là c'est vrai, on a nos bungalows, on a nos maisons. Maintenant, il manque quelque chose. Et on n'a pas pour mettre juste des photos sur le mur, là. On a besoin de s'entourer de notre culture. Donc, puisque c'est les Américains qui ont une grande part pour la reconstruction de l'Allemagne et pour la revitalisation après la guerre, c'est les Américains qui rentraient avec la Camelot là-dedans, ils ont peuplé l'Allemagne avec leur culture. Et c'était plus ou moins bienvenu, les gens s'entouraient de ça, c'était nouveau, c'était l'Amérique, l'aventure qui venait chez eux, c'était fascinant. Et avec le dynamisme des Américains, ça n'a pas été long que l'Allemagne était, une grande partie de l'Europe était envahie. Ça a changé depuis. Et dernièrement, la prise de conscience des Allemands et des autres Européens qui disent maintenant, bah, écoute, on a quelque chose à dire aussi, ça va faire, on se fait envahir là. Avec le Canada, ça aurait pu être le même phénomène que les États-Unis. Seulement, on a toujours été des dominés, on est des colonisés. Donc, un colonisé qui est dans le centre, prend dessus, il dit, il va coloniser, parce que c'est ça un peu que les Américains font avec l'Europe, avec la culture. C'est un renversement des rôles qui est presque impossible. Alors pour moi, la prise de conscience de la culture québécoise ou canadienne, s'il l'a rendu là-bas, dans l'Ouest, je suis pas sûr de ça. C'est tout avec la rue vers l'or noir. Je ne penserai pas. C'est un artifice qui se propage
c'est,
là.
C'est l'exploitation des ressources.
Ben oui. Mais ici, je pense, on a une prise de conscience d'une sorte. Il y a un public qui est en train de se former. C'est heureux, ça prend du temps. Ce n'était pas les 15 ans que j'avais prévu quand j'arrivais ici, parce que je n'étais plus en Allemagne. Je n'étais plus dans le même milieu, je n'étais plus dans le même contexte du tout culturel. Il y avait un autre contexte qui était l'exploitation. Et moi, j'ai beaucoup confiance maintenant, après 25 ans ici, que ce milieu qui a pris une force, peut-être prend aussi une force à cause de sa situation politique, défavorisation économique. Donc, il faut garder ailleurs. L'exploitation est moins importante maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un regard envers de nous-mêmes et tout en faisant ça, ben, on se retrouve, on découvre qu'est-ce qu'on est. Et là, la culture, tout d'un coup, est là. Peut-être apprendre ça. Tu sais. Et donc, toutes les choses que j'avais projetées qui auraient été valables en Europe, ou des pays qui ont déjà la culture, donc en Europe. Quand j'étais en 1980 à Créteil, j'ai fait ma sculpture de grande taille à l'extérieur, et j'avais pas ma caméra pour photographier ma pièce quand j'avais terminé, j'étais très malheureux. Parce que je vais revenir la semaine prochaine et ma pièce va être en morceaux. Elle va être vandalisée. C'est ça que j'avais comme souvenir. Tu fais une pièce à l'extérieur spontanément et la semaine prochaine, il n'y en a plus. Je l'ai expérimenté assez souvent ici. Alors, ce n'est pas une déformation, mais c'était une irréalité en Europe. Parce que je suis revenu un mois plus tard et les gens ont mis le gazon et planté des arbres alentour. Ils avaient déjà donné une autre couche de peinture. Il était magnifique. Ça n'aurait jamais pu arriver ici. Ça peut arriver ici un jour peut-être. Donc, je n'avais pas aucune raison de m'inquiéter. Sur la survie de ma sculpture, elle va probablement dans 5 ans, elle va être aussi belle, mais aussi un problème qu'avant, qu'il n'aura pas pu avoir ici. Donc, avec un esprit de là-bas, tu viens ici, c'est une anormalité qu'il y a destruction des pièces qui étaient créées par quelqu'un systématiquement. Il n'y a rien qui reste. L'hiver est destructeur. Dévastateur envers tout ce qui est extérieur, des maisons et tout. En plus, les gens sont sauvages, ils détruisent des pièces, ils veulent pas en avoir, donc je dis, ça se peut-tu, c'est pas vrai, ça, faut se battre contre ça, c'est pas une question d'intervenir dans un tableau changeant, non, c'est pas ça, mais juste le fait d'avoir le minimum de respect pour quelque chose, ça me paraissait aberrant. Et je révisais mes flûtes là-dessus au moment que j'ai pris conscience que c'est ce pays-là. Et aussi, pour la même raison, en Europe maintenant, avec un bouleversement qui a lieu politiquement et socialement, tu ne peux plus espérer que ta pièce reste là. Je pense, même à travers l'enseignement, tu apprends des choses. Je ne devrais pas dire même, c'est évident, si tu aimais des choses qui sont des fois en feedback qui revient. Il y a un de mes étudiants qui a découvert, qui voulait avoir une espèce de feedback de sa propre création. Et voir si sa démarche était valable. Et s'il était valable, il a dû, au moins, il dit, au moins, s'il y a un minimum de validité dans mon affaire, je dois avoir un feedback quelconque si je m'enferme avec. Ça se peut pas. Donc, je vais voir, je vais m'enfermer avec ma pièce. Et il s'agissait des poissons. Il ne voulait pas que ce soit des poissons, donc il coupait la tête, donc ça devenait une forme. Mais une forme qui n'était pas juste une forme, mais une forme qui avait une autre propriété qui sentait. Et expérimenter ça dans mon cours avec ça d'une façon extraordinaire, j'étais très jeune. Il soudait des boîtes en métal, il mettait 100 litres de poisson dedans, ça arrive dans l'atelier, ça pue, ça coule à terre. Je dis, sacrément, ça se peut-tu, mon gars? Il dit, regarde, ma boîte en haut, là, le comparatif que j'utilise avec ça, c'est pareil, moi, comme dans une taverne, une TV. Il dit, il y a une boîte dans le coin qui est fascinante, qui attire la vue de tout le monde périodiquement. Personne ne comprend rien qu'est-ce qui se passe là, mais il y a une présence énorme. Ma boîte aussi. Elle est dans le coin, tu regardes, tu ne comprends pas qu'est-ce qui est là, mais elle t'attire, hein?
Mais ça
il y a quelque chose à ça, hein? Et finalement, avec toutes les expériences de poissons qu'il avait faites, il voulait voir que... À part de ce qu'il disait, s'il y avait d'autres choses qu'il pouvait se nourrir lui-même de ses propres pièces, Et on avait arrangé une sorte qu'il pouvait s'enfermer dans le champ avec une de ses pièces pendant 2 semaines dans le chac. On avait tout arrangé, sa nourriture, il y avait la vidéo, les caméras, la lumière, tout ce qu'il voulait avoir pour éventuelle possibilité d'avoir un feedback de sa pièce, il y avait. Donc c'est un gros camion plein stock, on a amené un champ, et ça finit là, il dit, mais si tu ne sens pas bien, sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va chez le prochain fermier, tu pourras toujours marcher là, nous appelons, on va te chercher. Les circonstances données à l'automne, tout peut arriver. 3 jours après, la grosse tempête de neige, les températures plongées à mort. Et moi, j'étais inquiet comme un bon pour dire, mais qu'est-ce que c'est bon, il va geler là. Tu sais, c'était pas isolé, ce cabane-là. Tout la journée, si j'endors, il gèle là, ça peut arriver, les parents sur le dos, la face, ça se peut pas, je dis, mais il va passer de tête sur l'épaule parce qu'il est intelligent, il va sortir là. Finalement, je ne suis pas allé, je l'ai laissé là 2 semaines. 2 semaines plus tard, on est allé avec les camions, on trouvait à peine le chemin pour y aller. J'ouvre la porte, toute la neige vierge alentour, ouvre la porte de la cabane. Je dis, là, il est là, il me regarde avec des grands yeux, je dis, comment ça va?
Pas si fort.
Donc, il dit, il dit, ici, il n'y a pas de bruit. Ici, il y a juste le sifflement. Ici, il y a juste la neige que j'attends maintenant. J'ai appris d'entendre, d'écouter. C'est merveilleux. OK, peux-tu un café? Est-ce qu'on peut? Tu sais, on s'assit et là, il m'a dit, une affaire fantastique. Il dit, après 3 jours d'être ici, la tempête est arrivée. Donc, il dit, regarde la cabane, tout mon papier dessin, mon plastique, tout ce que j'avais, j'ai utilisé pour cafeutrer la cabane. Mon eau a gelé, mon nourriture a gelé. Ici, il dit, c'était la survie. Il dit, je te dis, là, dans certaines conditions sociales, il n'y a pas d'art. Et moi, ça me paraissait, un bonhomme jeune, une découverte extraordinaire. Hein? En plus, il disait, c'était fantastique, j'étais assis dans un coin, je regardais alentour, il n'y a rien qui bougeait. Ici, moi, je ne faisais rien, rien qui se faisait. Alors, il disait, c'était parfois épeurant. Je regardais tout ce que j'avais emporté, rien qui bougeait. C'était moi, la motricité dans l'affaire. La seule chose qui pouvait arriver, c'est moi qui le faisais arriver, où il n'y a rien qui arrivait. Donc, ces 2 semaines là-bas, pour lui, il y a des choses qui s'est passées dans cette classe-là en particulier. Donc, tout le monde qui est dans cette classe-là, ils sont encore ici en ville, qui font encore des affaires. C'était une classe stimulante à mort, et c'est à travers de toutes sortes de conversations, dialogues qu'on a eu ensemble, là, toutes ces affaires sont sorties, et c'était extraordinaire, tu sais. Et moi, je crois à ça, par comparaison, ou à quoi appuyer, qu'est-ce qu'il dit, dans certaines conditions, il n'y a pas d'art. Donc, ça prend un terrain fertilisé pour, il y a un art qui, comme nous autres, on le connaît, peut exister, évidemment, dans les gens primitifs, ça existe autrement, dans toutes sortes de formes. L'art existe, mais qui fait intégralement partie de leur vie, et soit dans les jouets, les bijoux ou quoi, dans les décorations de maison, mais pas comme on le connaît.
Mais est-ce que l'expérience pour l'étudiant ou pour toi a été une expérience d'art? Une expérience
de vie. Oui, et l'art en même temps.
Il découvrir l'art par le fait de la vie, mais il n'y avait pas d'art. Peut-être.
Non, il n'y en avait
pas. Ça n'a pas été un geste d'art, finalement. Mm. C'était un geste de survie.
Oui, ce n'était pas un geste d'art, mais moi, j'aime pas vraiment couper une vécu ou quelque chose qu'on vit, couper ça de l'art. Mm. Je pense que c'est très, très lié dans le sens que Si on s'interroge sur la vie même, la survie ou la vie, ou le, je ne sais pas, être bébête, et de l'art, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on exprime, qu'est-ce qu'on dit, c'est très près lié. Il n'y a pas de l'art, il n'y a pas de vie. Donc moi je trouve que dans beaucoup de sens, définir l'art, c'est très très lié à la façon qu'on vit, les conditions qu'on vit et comment on perçoit la vie. Il y a certains gens qui ne pouvant jamais devenir des artistes, je trouve ça une impossibilité, soit par, comme je dis, la condition économique, ou dans un entourage politique, ou justement, tout ce qui n'est pas favorable à un espèce de discours intellectuel, là, il n'y en a pas d'art, comme on le connaît. On n'est pas juste des faiseurs. T'sais, cette lampe, à mon point de vue, ne peut pas être faite, c'est dans l'intention, je pense, l'art existe. Ça existe au moment que tu dis, mais l'art, je l'ai fait pour une sorte de recherche sur la vie, ou sur le... Je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais ce n'est pas en vue d'un gain capital, ce n'est pas fait en vue de vendre et se vanter ou tout ça. Je pense que c'est très loin de tout ça. Le vrai fond de l'art est loin de ça. C'est notre civilisation encore qui revient dans ça, qui fait de l'art d'autre chose que ça devait être aussi. Parce que si les conditions économiques sont poussées dans l'autre sens, trop loin, ça provoque un anti-art aussi, si tu veux. Ça provoque un marché. Il faudra trouver un milieu dans l'affaire, là, à quelque part où ça se trouve, là. C'est sûr, moi je crois aussi, comme à un moment donné, Ivan Karp, chez O.K. Harris, qui me disait, qu'un artiste ne peut pas inventer toute sa vie, ça c'est pas vrai. Si un artiste fait 2-3 inventions originales, il en a fait sa contribution à la civilisation, à la...
Ce que tu disais du chant, quoi.
Ouais.
Ça peut être 3 chefs-d'œuvre,
savoir faire. Oui, tu peux pas constamment, et qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu as le droit de manger des cerises un peu aussi, tu as le droit de vivre. C'est une impossibilité d'un inventeur toute sa vie. Par comparaison, des milliards de gens, ils font absolument aucune invention de leur vie. Donc si quelqu'un fait trop, là, c'est déjà un avancement énorme. Et plus ça va, plus c'est vrai, parce qu'on est plus, on est plus nombreux. Donc des idées, il y en a plus d'idées. Il y a une multiplication d'idées, une multiplication de choses faites. Donc si parmi tous ces gens-là, il y a un ou deux inventions, moi je trouve ça formidable.
Est-ce que s'il y en a de l'art au Québec?
S'il y en a de l'art?
Oui.
Oui.
Oui?
Ah oui.
C'est lequel?
Moi je trouve l'art dans tous les gens. Qui ont dédié leur vie vers une idée qu'eux autres, ils voudront explorer d'une façon, intègre. On peut juste voir s'il y a de l'art ou s'il n'y en a pas avec un certain recul. On ne sait pas tout de suite reconnaître la valeur de quelque chose quand on le vit. Je pense que ça prend un certain recul pour savoir quelle valeur ça a pu avoir ou pas pu avoir. Et c'est le temps qui va nous dire ça. On n'a pas ce grand recul encore, mais je pense que... Ah, il est baveux. Pourtant, il est fermé.
C'est juste les calorifères qui font ça.
Ben oui, c'est le retour. Parce que si j'ouvrais l'autre, là, ça serait plus dramatique encore.
OK. Continuons en espérant qu'on va s'entendre.
Je trouve qu'il y en a assez de monde ici qui sont intègres, qui sont... c'est pas question de volonté, c'est je veux, c'est pas ça. Ils sont sérieux dans leur démarche et ils viennent effectivement avec... avec une démarche valable, à mon point de vue. Et ils émettent des idées avec une sincérité étonnante. Et indépendamment de tout risque et péril, si tu veux, ils se cassent la gueule ou non, ils ont l'argent ou non, ils se mettent dedans, ils émettent une idée. Et la validité, comme je dis, on verra.
Et ce serait qui ceux-là? Des noms, des personnes, des choses, des... Tu n'as pas de noms de plusieurs noms?
Ben, j'en ai... tu vois aussi qu'il y a des gens qui ont des préférences. Évidemment, si quelqu'un parle la même langue que moi, il peut être plus près que moi, à moi que d'autres. Mais je pense... le fait qu'on enseigne, et si tu enseignes pour le vrai, ça demande une générosité et une compréhension assez grande. Si tu ne veux pas détruire l'œuvre en partant, il n'y a pas de naissance possible. Mm-hmm. Tout ce que tu peux faire, tu peux stimuler, tu peux faire voir, questionner et éveiller une curiosité dans quelqu'un. Et en ce moment-là, la personne va avoir la possibilité de s'exprimer sa façon, et pas la façon apprise. Mais plutôt, il y a beaucoup de monde qui a dit que l'émotion n'a pas de place dans l'art. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas tout raisonné. Je pense qu'il y a une grande partie d'émotion. Peut-être on appelle pas ça émotion, peut-être on appelle ça quelque chose senti, quelque chose c'est quelque chose que tu sens, que tu c'est pas émotion, c'est pas un bon mot. On va le trouver.
Le sentiment ou la profondeur des sentiments, quelque chose comme ça.
Oui, il y a quelque chose à l'intérieur. Oui,
quand ça pogne au trip, comme on disait.
Oui, tu es convaincu de quelque chose. Tu le sens, là, tu l'amènes là, tu analyses et tu peux par la suite le raisonner. Évidemment, les trips sans raisonnement, moi, je ne crois pas à ça. Et le raisonnement sans aucun trip, là, ça vient aussi assez plate, assez terne. Mm-hmm. Ici, on a évidemment, puisqu'on n'a pas beaucoup de diffusion possible, on n'a pas beaucoup de lieux qui peuvent nous diffuser ou montrer qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de multiplication d'objets ou choses qui arrivent, mais il y a plutôt une réflexion qui précède assez profonde avant d'émettre une idée. On ne la met pas dans ça parce que ça prend du storage, après si on l'a gardé, ça implique tout un autre truc là. Alors, ça se peut qu'à cause de ça, à un moment donné, des pièces, ils paraissent ternes, à mon point de vue. Ils viennent ternes parce qu'ils sont tellement pensés que l'émotion est souvent exclue. Quand tu arrives à avoir des tableaux très colorés, très contents, très exubérants, là, il y a encore beaucoup d'émotions. Moins qu'il y a d'émotions, plus ils sont colorés, moins ils sont colorés, plus ils viennent ternes, plus ils viennent introverts, si tu veux, fermés. Ça implique aussi que tu, peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas peintre, mais je peux voir que une pièce qui, en partant, qui ne me parle pas avec des émotions, des couleurs, tu as une tendance d'examiner son bien fondé. Et tu rentres dedans et pour examiner plus proche qu'est-ce qui se passe. Et peut-être c'est l'intention de l'artiste souvent, dans ce cas-là, de dire, mais écoute, il y a quelque chose d'autre que des tripes, check-les. Et on a pas mal ici de ces artistes ici.
Il y a beaucoup de peintres comme ça, les vagues plasticiens, etc. C'est des structures dans lesquelles tu plonges pas ou tu plongeras pas, mais c'est de la part des œuvres de structure. Et pour toi, c'est pas nécessairement ça qui sont les...
C'est pas juste ça.
C'est pas
non.
juste ça.
Parce que c'est...
L'histoire de l'art est faite là-dessus.
Hein?
Que ce soit Bordurois, que ce soit les plasticiens, les automatistes, c'est ça.
Ah oui. Oui. Mais il y en a... l'espèce de joie de vivre, il peut aussi être reflété à travers de l'art, qui finalement est donc la réflexion d'une civilisation vécue. C'est pas juste les penseurs qui ont vécu là. Il y a aussi des gens qui ont vécu avec une autre mentalité, pas pour dire superficielle, c'est pas ça. C'est d'examiner les couleurs, par exemple, c'est aussi valable qu'examiner une problématique purement intellectuelle. C'est, parce que tu peux aussi amener un problème intellectuel par la couleur. Donc, c'est pas juste ça. T'sais.
Pour reprendre ton exemple allemand de l'après-guerre, est-ce que je dirais que si aussi on est colonisé par des Américains dans notre art?
Oui, mais on a aussi grandi avec les Américains. Donc, moi, je considère qu'on est, dans le fond, nord-américain.
Aussi américain que les Américains.
Oui, avec une petite nuance. Avec une petite nuance. Parce qu'eux autres, ils sont une nation, et nous autres, on prétend être une nation, on n'est pas. On est des tribus. On a beaucoup plus des tribus, je trouve, que le mot nation du gouvernement est prématuré. On n'a pas eu la chance de devenir une nation et, avant la tendance des tribus à commencer. Le morcellement, là, le fait de vouloir s'identifier,
nationalistes
québécois, des féministes, toutes les identifiés, des morcellements d'un peuple, mm-hmm. finalement, par cellule, je pense que ça a précédé le fait qu'on est devenu une nation, comme les Américains étaient une nation avant. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup plus une unité dans leur peuple que dans notre peuple. Donc, tu peux trouver ici une diversité beaucoup plus grande à cause de ça, que peut-être les États-Unis. Moi, je trouve qu'on n'a rien moins que les États-Unis dans notre émission d'idées, absolument pas. Évidemment, à cause du grand voisin qui a 220 millions d'habitants, nous avons un dixième, on est défavorisé par la quantité, mais je pense pas qu'on est défavorisé par les têtes. Pas du tout. Absolument pas. Je trouve que qu'est-ce qui manque, par exemple, c'est souvent, et ça pas par les artistes, mais par ceux qui administrent les arts, c'est une espèce de manque de confiance, c'est affirmé pour quelque chose qui existe vraiment ici. De dire, on a l'impression qu'ils ont peur de dire que... voilà, ici, il y a des artistes fantastiques qui ont fait ça et ça et ça et ça. Il écrivait, il disait, oui, on est ça. Au lieu de dire, bon, oui, on a fait ça, mais il y en a le côté, on a eu ça, et peut-être il n'y a pas... Des Américains ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Et des Européens, surtout maintenant, ils ne font pas ça non plus. Je pense qu'on a à prendre...
confiance au niveau des administrateurs, puis... peut-être
chez
les artistes.
Oui, je trouve ça, oui. Et je trouve ça malheureux et je trouve j'espère que ça va changer. Je ne suis pas trop sûr là-dessus, par exemple.
Moins sûr que tu l'as été.
Oui, sur cette fait-là, je trouve que les artistes ont toujours, ici, là, ils ont toujours joué un rôle admirablement courageux, surtout ici, au Québec. L'appui n'était pas énorme, la diffusion n'était pas énorme, les galeries, la vente n'était pas énorme comparativement à d'autres places. Et il n'y a pas grand monde qui a abandonné la place. des gens restent ici, c'est notre place, c'est notre culture, et on va voir que on a notre culture, parce que eux, c'est les premiers qui croient à la culture. C'est, quand je dis la culture vient de l'intérieur, c'est des premiers, c'est des pionniers, finalement, qui bâtissent cette culture-là. Si tu les perds, t'es fait. Tu t'as commencé perpétuellement. Si tu vois Rabinovitch qui prend un nom maintenant, tu vois à la Documenta 7, et je regarde le catalogue, et tu vois Rabinovitch, USA. Moi, ça me fait mal. Mm-hmm. Je ne connais pas Rabinovitch personnellement, David. Je sais qu'il a profité de bien des supports des Canadiens, qui deviennent tout d'un coup américains. Moi, je trouve ça malheureux. Je trouve ça une traîtrise. Une espèce d'exportation de la culture que les Américains s'emparent. C'est très malheureux. Je trouve ça bien si quelqu'un veut aller aux États-Unis ou va ailleurs, il fait ses expériences avec d'autres informations, il peut amener comparer, voir, élargir l'esprit, l'amener ici, m'a ramené ici, et il l'annoncer ici. Je vois pas comment on peut tout d'un coup, ça, je trouve ça, c'est pas très, très heureux.
Puis dans le cadre de mon enquête, de 68 à 82, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé durant cette période-là, de marquant, de signifiant, de notoire?
Moi, je trouve qu'on va, à mon point de vue, on va voir que après des plasticiens, il y a un trou dans la peinture. À mon point de vue. Parce que les autres sont imposés d'une façon catégorique. Il y avait raison de le faire pour eux, c'est évident. Mais ils étaient tellement puissants dans ça. Il y avait beaucoup de succès, il y avait l'oreille qui était prêtée à eux, que les autres ont oublié. Donc, il y a toute une vague par la suite qui est venue de peintres, supposés peintres, qui n'ont jamais surgi. Ils n'ont pas pu. Il aurait pu s'il était plus fort, mais il n'était pas plus fort.
Et ils sont
lancés dans. Il y a une fléau de gravure qui est venue par la suite. Et cette fléogravure, ça, il y a pu avoir peut-être certains peintres qui ont resté. Donc, qu'est-ce qui est resté? C'est, si je parle des gens comme, par exemple, Quimpigny, Bellin et tout ça, là, ils sont venus plus tard. Je ne l'inclus pas. L'Islanderie et tout ça, c'est venu un peu plus tard. Mais avant eux et après, il y a un trou. Il n'y a pas de peintre. Il y a mon petit qui flotte seul, là. Les beaux verts, peut-être, ils flottent seuls là. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on parle de relève que les gens n'aiment peut-être pas, ça veut dire qu'il y en a un trou, il y en a d'autres gens qui ont commencé à travailler parce que là, c'était sûr, c'était assumé, c'était établi qu'eux autres existent, donc il n'y avait rien à bouger, c'est un château fort, et là, on peut ouvrir les portes. Donc, on peut recommencer. Donc, il y avait un fléau de graveur. Que je pense qu'il n'y a pas de gravure ou art graphique au Canada à une pointe qui est ici, ça n'existe pas nulle part, c'est incroyable. Enfin, les sculpteurs, ils ont véhiculé quand même d'une façon constante et ils se sont éliminés tout seuls, un peu. Mais oui, par implication, là encore, de implication politique ou. Par une espèce de mollesse, lâcheté qui était provoquée par l'enseignement, qu'ils aient tué, mais peut-être pas le mieux. Parce que si on a quelque chose à dire, on a quelque chose à dire, on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. Vous êtes tous les gens que moi, à un moment donné, comme je disais au début, l'admiration pour ces gens-là, ils sont en grande partie encore dans l'enseignement et je ne le vois plus jamais. Je vois pas qu'ils se manifestent. Je vois pas qu'il y a une émission de nouvelles idées, d'une poursuite d'idées, qu'il y a une cohérence dans leur vie en rapport à l'art. Ils sont pour moi pas les artistes.
Ça, parce qu'ils sont fonctionnaires de l'art.
bon, ils sont juste des fonctionnaires, parce que je pense que l'art, faut que tu le vis. Si tu ne le vis pas, tu ne peux pas. T'sais, on ne peut pas faire l'art on the side. Tu ne peux pas être juste un artiste à des mi-temps, là, c'est bien, bien tough. Déjà, l'enseignement, ça vole une grande partie de ton temps. Si tu fais un enseignement stimulant et tu es vraiment veillant, tu es un bon enseignant en ce moment-là, en même temps, ça ne peut pas te nuire dans ton art, si ce n'est pas trop de ton temps. Ça peut juste être bon. Parce que tu restes prêt des idées qui évoluent, tu les laisses évoluer aussi, et toi, ça te force d'évoluer aussi, parce que si, autrement, tu es dépassé, donc tu n'as plus rien à dire. Si tu ne peux rien dire, tu deviens un fonctionnaire. Si tu as quelque chose à dire, tu continues. Donc, dans ce sens-là, je trouve que l'enseignement peut être très bon pour un artiste. Et, on a aussi, dans le fond, un rôle à jouer pour une continuité, aussi pour finalement bâtir cette fameuse culture-là. Ça prend aussi des gens qui s'impliquent un peu, qui veulent bien aider à la cause.
Parce que finalement, dans toutes les causes qui étaient défendues à l'extérieur de l'art, ce que tu viens de dire, d'après ce que tu viens de dire, tu as peut-être trouvé premièrement, pour la première fois, une cause valable qui était l'enseignement pour toi.
Oui, ça, c'est une bonne cause, oui, oui.
Plus que les manifestations.
Ah oh, oui, parce que j'ai vu maintenant...
Les associations d'artistes,
ben oui, vécu, parce que là, je suis loin de ça, et je vois des revendications, et je reçois des papiers, et je dis, ça se peut pas, il me semble, on n'a pas revendiqué ça. Ça se peut pas qu'on revendique. Ça se peut pas que moi, j'ai parlé comme eux autres. Je peux pas m'identifier avec ça. Des choses aberrantes, comme l'assurance chômage pour les artistes. Je disais, comment ça? Ça se peut pas. J'étais le seul chômage, j'étais fini depuis artiste. Comment? Ça se peut pas. Il y a certaines choses que ça ne s'applique pas. En partant, tu es marginal dans le sens que tu es contestataire d'une certaine façon. Tu es là pour remettre en question des valeurs établies, pour en émettre peut-être d'autres, ou pour les montrer à un autre angle, une autre façon, mais pas les prendre comme acquis ou les adapter. Je pense que...
Disons qu'en fin d'interview comme ça, quel est ton esprit général sur l'état de l'art au Québec, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé?
Je pense que l'admiration que j'avais devant une grande quantité de monde se réduit radicalement. Et je pense que il y a quand même une petite quantité de gens très intéressants ici, que eux autres, il y a un poids énorme sur le pôle finalement d'assumer la continuité de la culture ici. Mais il y en a peut-être 5-6 dans la sculpture, il y en a une dizaine dans la peinture, il y en a dans la performance, et on n'a rien en arrière des autres. Je peux dire, comme je disais, là, il y a les sculpteurs, ça a continué d'une façon comme une vague, pratiquement, là. Et on a laissé des gens de côté. Ils sont laissés eux-mêmes de côté. Il y avait aussi beaucoup de gens qui promettaient que moi, des jeunes qui étaient plus jeunes que moi, que j'aimais beaucoup dans le premier pas, qui avaient beaucoup à dire, qui sortaient de l'école, qui avaient beaucoup d'appui. Il y avait même trop d'appui. Et je pense qu'il y en a peut-être 5-6 ici au Québec qui ont beaucoup à dire encore s'ils n'avaient pas eu trop d'appui.
On les a brûlés, quoi.
On les a brûlés. On les a brûlés de façon que... on a dit, oui, c'est magnifique qu'est-ce que tu viens de faire. Ici, une bourse, fais-en d'autres. Et à un moment donné, comme je te disais au départ, là, j'ai une exposition qui l'exposition au musée est finie le 5 décembre, j'ai une exposition le 18 janvier.
Mm-hmm.
Si je montre la même chose, c'est moins pour moi.
Mm-hmm.
Si je montre moins, c'est vraiment moins. Il faut que je montre plus. Maintenant, ces gens-là qui sont jeunes, qui viennent apprendre tout, qui sont... OK, ils ont des idées, ils sont brillants. Mais pour dire quelque chose, il faut que tu saches beaucoup. Et c'est pas juste de savoir comme ça en surface, mais savoir et aussi avoir vécu. Avant d'être capable de dire longtemps quelque chose, de prononcer un discours qui dure longtemps. Donc, les expectations de ces gens-là étaient forcées un peu avec des bourses. Et on s'attendait qu'ils continuent comme ça. Et c'était quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ça. On devait les appuyer et demander quelque chose à eux. Eux autres, ils viennent d'eux-mêmes. Et par la suite, je pense qu'il faut les laisser tranquilles un peu. Et ils vont revenir de constamment.